RMC, face aux grandes gueules.
C'est Natacha Polony, l'éditorialiste, la journaliste Natacha Polony, qui est directrice de la revue L'Audace, qui vient de publier, après-demain, je crois d'ailleurs, La France corps et âme aux éditions Plomb. Bonjour Natacha Polony.
Bonjour.
On va en parler, mais depuis hier soir, on a un nouveau candidat à l'élection présidentielle. Son nom, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Et personne ne s'y attendait.
Non, mais c'est une surprise. Heureusement qu'on est encore assis, mais est-ce que c'est la bonne cette fois-ci?
Non, mais...
Est-ce que ça peut être la bonne pour lui?
Vous avez vu l'évolution de la vie politique ces dernières années. Je pense que les Français savaient très bien que Jean-Luc Mélenchon était candidat, puisqu'il a une manière de faire qui est assez simple, c'est-à-dire que il utilise les jeunes générations pour éliminer ceux qui, dans les générations un peu plus élevées, pourraient prendre sa place. Ça marche très bien, ça s'appelle du maoïsme. Mais le seul sujet, c'est quel est le projet pour la France et est-ce que c'est un projet qui rassemble? Or, on a bien compris qu'il y avait là un processus de fracturation de la communauté nationale. Et c'est bien ça dont souffre la France depuis déjà longtemps. C'est-à-dire qu'on a des partis politiques qui ont acté le fait qu'ils étaient minoritaires, qui ne cherchent même plus à parler à la majorité du peuple français.
Et il a dit qu'on peut être clivant et rassembleur.
Non, ils cherchent à s'adresser à un électorat précis, une part de marché, en élargissant un tout petit peu la part de marché dans l'espoir de se retrouver dans un second tour avec quelqu'un qui sera encore plus détesté en face. C'est ça que font les partis politiques aujourd'hui. Ça s'appelle une démocratie minoritaire, ce qui en fait ne fonctionne pas parce que ce n'est plus une démocratie.
Donc,
c'est-à-dire
que dans un an, on va choisir forcément un président ou une présidente par défaut, parce que ce candidat aura éliminé Bardella ou Mélenchon.
Mais c'est ce que nous faisons depuis des années. Et c'est bien pour ça que nous sommes dans une crise démocratique, un blocage total, que vous avez jusqu'à 50% du corps électoral qui décide de ne plus se déplacer dans certaines élections. Accessoirement, ce sont les plus pauvres, c'est-à-dire qu'on a réinventé le suffrage censitaire. On a fait en sorte que les plus pauvres n'aillent pas voter parce qu'ils ont intérioriser le fait que voter ne change plus la vie. Or, c'est le but de la politique. Changer la vie, c'était le titre du programme commun de la gauche dans les années 1970. Pourquoi? Parce que c'est ça la définition de la politique. Et que tout a été fait dans le système politique pour que chacun de ceux qui sont candidats, qui veulent représenter, en fait, aient accepté leur impuissance.
Est-ce qu'il aime la France, Jean-Luc Mélenchon, ou pas?
Mais je me moque de savoir quelle France il aime. La nouvelle France, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, mais la France, on doit la prendre dans sa totalité. C'est-à-dire que si on veut penser l'avenir de la France, il faut avoir intégré et aimé son histoire avec ses parts d'ombre, avec sa complexité. Et tout le principe, c'est de s'appuyer sur ce qui fait le substrat à la fois politique, idéologique, culturel de la France pour tout simplement proposer aux Français un récit, j'irais même plus loin, une épopée. On a besoin de retrouver un petit peu de souffle et de savoir dans quelle direction on veut aller. Et pour ça, il faut comprendre quelle est la spécificité de ce pays qui ne ressemble à aucun autre.
Mais la France corps et âme que vous aimez, hein, parce que c'est une déclaration d'amour à la France, ce livre.
Bien sûr.
C'est pas aussi quand même la France d'autrefois, la France idéalisée, la France effectivement des paysans, la France des campagnes, la France des clochers.
Pas. Ah non, parce que vous aurez vu que ça, c'est un chapitre du livre, mais qui est fondamental. Qu'est-ce que je raconte dans ce livre? La France corps et âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pays est un pays qui est à la fois charnel et spirituel. Charnel parce que nous sommes plus qu'aucun autre pays de la géographie transformée. C'est-à-dire que la géographie française, elle est très spécifique. Vous avez une diversité de climats, de géologie, comme vous n'en trouvez nulle part ailleurs sur un si petit territoire. Et ça a façonné une histoire et un corps social. C'est-à-dire que si la France a été puissante, c'est parce qu'elle avait une agriculture qui était extrêmement puissante. Or, jusqu'au 19e siècle, l'agriculture, c'est l'énergie. Puisque l'énergie, c'est la force manuelle, humaine et animale. Et pour ça, il faut les nourrir. C'est pour ça que nous avions la première armée d'Europe et donc du monde. Derrière, c'est aussi de l'industrie. Pourquoi? Parce que la France est un pays qui, grâce à sa puissance, a pu penser des sciences, des techniques, les mettre en œuvre. Et c'est pour ça que nous avons été capables d'inventer aussi bien des avions, la fusée Ariane, tout ce qu'on veut.
Mais ça, vous me parlez du passé, Natacha.
Non, attendez. Est-ce que je peux terminer?
Oui.
Je termine le raisonnement. Il y a cette dimension charnelle, cette dimension charnelle est abîmée et il faut la reconstruire pour permettre justement de retrouver l'avenir. Et pour ça, il faut s'appuyer sur la production, retrouver une capacité à transformer des sciences et des techniques en production qui nous rendent indépendants. Et derrière, il y a la dimension spirituelle. La France, par son histoire, a produit une vision de l'être humain, une vision du monde qui est très spécifique. C'est le peuple souverain, l'idée que nous sommes des citoyens en dehors de toute loi divine et que nous décidons en commun de notre destin. D'où le pilier de la République, liberté, égalité, fraternité, qui est quelque chose d'extraordinaire. Or là aussi, c'est malade, ce côté-là. On a arrêté de défendre ça. Pourquoi ? Parce qu'on a renoncé tout simplement à la souveraineté, c'est-à-dire à la capacité de gouverner, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc si on veut inventer l'avenir de la France, il faut reconstruire ces deux piliers, c'est-à-dire produire et rétablir une véritable démocratie. C'est ça l'avenir de la France. Ça s'appuie sur les sciences, ça s'appuie sur la capacité d'invention, ça s'appuie sur la foi en notre modèle. Et moi, je crois que la majorité des Français croient profondément en ce modèle. Et d'ailleurs, toutes les études d'opinion le montrent.
Emmanuel de Villiers.
Alors, moi, j'ai trouvé votre livre de haut niveau. Il faut rappeler que vous êtes agrégé de lettres. Donc, vous êtes une intellectuelle accomplie. J'ai trouvé qu'il était puissant tant sur le plan dialectique que sur le plan didactique. C'est un livre qui s'intéresse à de nombreux sujets, qui représente un travail considérable, et j'invite nos auditeurs, s'ils veulent vraiment réfléchir à la situation de la France, à son passé, à son présent, à son avenir, à acheter et lire ce livre. Alors, ceci étant dit...
Oui, et je vous en remercie.
Il a un petit côté idéaliste. Vous apparaissez quand même dans cette complexité intellectuelle, ce niveau qui est le vôtre, un peu comme torturé de l'esprit.
Ah oui.
Et vous avez... ce fond de sauce insupportable dans tout ce bouquin de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est un vieux truc complètement suranné, auquel plus personne ne croit et qui nous a amené dans le mur. Alors vous venez de redire liberté, égalité, fraternité. Est-ce que les gens qui nous écoutent, ils pensent pas qu'il faudrait commencer à changer de devise pour avoir quelque chose qui correspond plus à la vérité de la France?
Et tu prends quelle devise?
Je ne sais pas si c'est la Nouvelle France avec Monsieur Bali Bagayoko qui décroche le portrait du président de la République, mais en tout cas, les rappels que vous faites permanents sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de 46, t'as tout compris. Ça me paraît complètement dépassé. Ça m'a rappelé un dialogue fameux de Lino Ventura dans Un taxi pour Tobrouk. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'un con qui marche.
Qu'une brute qui marche. La vraie citation, c'est vont moins loin qu'une brute qui marche.
Alors, j'en veux pour preuve, et après je vous pose une question de manière positive. Parce que moi j'ai lu le livre. Page 67, vous dites, je cite, « Pour attirer vers le travail, contrairement à ce que propose une droite aux arrière-pensées de mépris de classe, il ne faut pas réprimer les tirs au flanc, il faut garantir un travail qui émancipe, qui grandit, et non un travail qui abétit et humilie. » Je pense que les auditeurs qui nous écoutent, ils pensent le contraire.
Eh bien, moi, je ne crois pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Premier point, moi, je veux bien que vous estimiez que tout ça est suranné. Les hommes naissent libres et égaux en droit, est-ce que c'est suranné?
Totalement.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, est-ce que c'est un projet qui vous déplaît? Je trouve que c'est plutôt une très belle façon de voir l'être humain.
Avec l'échafaud à côté.
Ensuite, vous avez choisi... Je vois pas le rapport avec l'échafaud.
La Révolution française, c'est l'échafaud, ce sont des crimes.
Arrêtez sordides. Ces clichés.
Bien sûr, on n'a pas
clichés.
Tué le roi, on n'a pas tué la reine.
Alors, stop. Si on a tué le roi, je ne suis pas pour l'échafaud. Est-ce que on peut se lancer dans un débat sur la Révolution française et de savoir si ce sont les droits de l'homme et la vision de l'humanisme et des Lumières qui conduisent directement à la terreur, ou si ça il y a eu une bifurcation à un moment? Je pense que vous pouvez me faire crédit du fait que entre Robespierre et Condorcet, j'avoue que Condorcet me plaît un petit peu plus, et il a fini en effet sur l'échafaud. Alors revenons aux droits de l'homme et du citoyen, parce que moi ce qui me dérange, c'est que certains utilisent les droits de l'homme contre cette idée que c'est le citoyen qui permet l'accomplissement de ces valeurs. C'est pour ça que je parle de souveraineté, c'est pour ça que je parle de rétablir une véritable démocratie. Quand on s'assied sur des référendums, quand on empêche l'expression de la volonté des citoyens, alors on détruit tout l'édifice. Deuxième point, vous avez sélectionné le moment où je parle du travail et de la nécessité d'un travail qui permette de s'accomplir. Sauf que vous oubliez que dans tout le livre, le corollaire, c'est justement de rétablir cette valeur du travail et surtout de la production, parce que je crois que c'est la base d'une bonne politique.
Ça, tout le monde le dit, ça. Vous avez vu Bruno Retailleau. Non, mais Bruno Retailleau le dit. Et en général, c'est les candidats de droite qui disent on va remettre
vous avez raison,
le travail au
Olivier
cœur
Truchot,
du projet.
Vous avez raison.
Sarkozy, en son
vous avez raison. Aujourd'hui, tout le monde le dit. Il y a encore 2-3 ans, parler de souveraineté et de production, ça vous faisait passer pour le pire des ringards. C'est ça fait 20 ans que je me fais insulter pour ça.
Emmanuel Macron en parle dans tous ses discours maintenant.
Alors, maintenant, oui. C'est... Mais moi, je suis ravie des gens qui découvrent la Lune. Tout à coup, et je leur dis, formidable, j'accueille les convertis. C'est bien, si vous avez enfin compris. Simplement, les mots, les slogans, c'est très bien. Voilà. La question, c'est le concret. Comment on rétablit une vraie politique de production en France? Vous voyez que les paysans sont en train de crever. Oui. On continue à les tuer. Le traité de libre-échange avec le Mercosur, qui est une forfaiture absolue et qui rentre dans une logique où, en fait, on se moque complètement de savoir si on préserve la capacité de production sur place. Mais c'est vrai aussi de toutes les PME et ETI françaises qui sont en proie à une concurrence totalement déloyale, qui ont des normes qui alourdissent leur capacité d'action, et dans un cadre politique où on ne pense jamais à la façon dont on va créer de la richesse. Donc il y a des actions concrètes.
Pour que les salariés
par exemple,
soient mieux payés aussi.
Priorité à la production française dans la commande publique, définition de filières qui relèvent d'enjeux vitaux sur lesquels l'État doit absolument préserver justement l'outil productif français, capacité de formation, réflexion sur l'investissement. Nous sommes un pays qui a 6 250 milliards d'économies. Cette épargne, aujourd'hui, elle tombe dans des trous noirs comme l'assurance-vie qui vont en fait vers des fonds américains. Et c'est-à-dire que nous finançons, notre argent finance l'économie américaine. Vous pouvez m'expliquer pourquoi tout ça est aberrant? Or, il y a moyen d'agir sur ces éléments-là. C'est du concret, on n'est pas en train de discuter de choses abstraites. Et c'est le pouvoir d'achat des gens qui est en jeu.
J'ai toujours été très sensible à votre discours souverainiste parce que je partage vos convictions et que vous avez commencé à tenir à une époque où vous étiez vraiment pas nombreuses à se compter sur les doigts d'une main. Donc félicitations pour ça, parce que maintenant tout le monde vous donne raison, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Du coup, il n'y a pas d'évidence pour 2027, et votre livre est très politique. Est-ce que vous y pensez à faire de la politique?
Alors,
est-ce que vous vous préparez pour la présidentielle?
Premier point, je ne me suis jamais dit souverainiste. Pourquoi? Parce que c'est un terme que les gens ne comprennent pas, qui a été dévoyé totalement. Je défends l'idée de la souveraineté, c'est-à-dire la définition même de la démocratie. Je suis tout simplement démocrate. Le titre 1 de la Constitution de 1958, c'est « De la souveraineté ». Article 3, la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants et par le référendum.
Mais aujourd'hui, qui a le pouvoir? Alors, qui a le pouvoir aujourd'hui?
Alors, juste...
Pour comprendre bien, parce que...
Oui, qui a le pouvoir aujourd'hui? Après, je réponds à votre question. Qui a le pouvoir aujourd'hui? Eh bien, depuis plusieurs décennies, en fait, petit à petit, on a fait en sorte de contourner les instances démocratiques par des instances supranationales, que ce soit l'OMC, que ce soit tous les accords de libre-échange, en fait, qui empêchent les citoyens de chaque pays de décider réellement la politique qu'ils veulent. L'Union européenne a été détournée de son sens, puisqu'au départ, je rappelle que 1957, le traité de Rome, ça repose sur l'idée que entre 6 pays qui ont des économies à peu près homogènes, on va faire un marché commun dans lequel on appliquera la préférence communautaire. C'est-à-dire qu'en gros, on s'échange nos excédents, donc on libéralise à l'intérieur, mais on protège à l'extérieur. Ça, au fur et à mesure, ça a été totalement bouleversé jusqu'à l'acte unique de 1986 qui, en gros, institue la libre circulation des hommes, des marchandises. Aujourd'hui, on est la zone économique au monde la plus ouverte, c'est-à-dire qu'on met nos systèmes en concurrence avec des pays. Regardez par exemple la Turquie. Le SMIC en Turquie, c'est 475 euros. La Turquie, depuis le traité de libre-échange de 1996 avec l'Union européenne, est économiquement de fait dans l'Union européenne. Donc comment voulez-vous que nos entreprises s'en sortent? Regardez l'entreprise Brandt qui fait de l'électroménager. Vous allez dans une boutique d'électroménager, vous voyez que l'électroménager turc, évidemment, est dominant. Pourquoi? Avec un SMIC à 475 euros, comment vous voulez que ça marche? Donc il y a un moment où il faut faire des choix. C'est-à-dire, si on veut préserver un modèle social, il faut faire en sorte de ne pas se mettre en concurrence avec des gens qui...
Préserver ou changer ce modèle social?
Alors, ce modèle social aujourd'hui, on voit qu'il ne fonctionne pas. Non mais attendez, oui, il ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il y a des choses à réformer. Mais est-ce que votre but, c'est d'avoir le modèle social turc ou le modèle social chinois ou vietnamien? Voilà, je ne pense pas. Donc,
il y a d'autres modèles en Europe.
Oui, qui sont meilleurs. Mais est-ce que vous voulez le SMIC roumain? Est-ce que vous voulez le SMIC roumain?
Moi, je veux bien les salaires suisses, par exemple.
Donc, c'est toute la question. Quand Edouard Philippe, il dit, il faut qu'on soit compétitif, il faut qu'on puisse concurrencer la Chine. Ça n'a aucun sens.
Non, ça n'a aucun sens. Nous avons un problème gigantesque. Nous avons d'un côté une droite qui ne voit que les problèmes de compétitivité et de normes et qui ne voit pas que nous nous sommes mis dans un système de concurrence qui détruit, qui est une concurrence déloyale. C'est le contraire du vrai libéralisme et qui détruit petit à petit nos entreprises. Je vous cite un exemple. Vous avez des fabricants de pompes à chaleur qui se battent pour produire en France, qui créent de l'emploi, de la richesse en France, qui financent le modèle social, qui financent les retraites. Eh bien, ces gens-là, quand ils vont à Bercy pour dire, écoutez, l'État donne des primes pour ceux qui achètent des pompes à chaleur, sauf que les gens achètent des pompes à chaleur chinoises parce qu'elles sont moins chères, alors même que les entreprises chinoises sont subventionnées par l'État chinois. On fait comment ? Et là, on leur répond à Bercy, mais c'est que vous n'êtes pas assez compétitifs. Mais s'ils étaient subventionnés par l'État, comme le sont les entreprises chinoises,
écologiques qui profitaient aux voitures chinoises à un moment donné.
Et donc, jusqu'à quand allons-nous utiliser les impôts des Français pour subventionner des entreprises étrangères pour détruire notre propre tissu économique, c'est-à-dire les retraites et la sécurité sociale des citoyens?
Et après, il faudra qu'elle réponde sur la présidentielle.
Je réponds. Le rôle en 2027.
Heureusement, on la garde.
Alors, Natacha, quel rôle pour 2027?
Candidate?
Je ne sais pas. Je vais vous dire une chose. De plus en plus de gens me posent la question. Moi, je me balade partout en France et honnêtement, oui, je suis frappée parce qu'on m'en parle. Et je vais vous dire pourquoi on m'en parle. Tout simplement parce qu'on est tous absolument effarés du niveau global que des candidats aujourd'hui, de l'absence de réflexion.
Il n'y a que des mecs qui se présentent.
Vraiment, on est ensemble parce que vous pensez la même chose depuis longtemps et c'est très rare aujourd'hui.
Ouais. Parce que j'ai une cohérence et que, hélas, la politique française aujourd'hui manque de cohérence. Nous avons besoin d'un récit, d'une architecture. Alors après, c'est pas un jeu, c'est pas un hobby, tout ça. C'est pas une plaisanterie. 15
millions d'euros.
Donc, c'est quelque chose qui est une responsabilité absolument gigantesque. Donc, et pour le coup, pour avoir réfléchi à toutes ces choses-là depuis des années, analysé la politique depuis mon point de vue qui était celui d'une journaliste, d'une commentatrice, je sais ce que ça signifie. Et j'ai trop vu la déception des gens face à des discours, à des slogans que je trouve insupportable.
Vous restez
donc
avec
ça
nous.
N'est pas une blague.
On va continuer d'en parler.
Donc vous y réfléchissez.
Donc je suis frappée par le fait que des gens de tous milieux sociaux, de toute origine, me posent la question et me disent il faudrait vous engager.
Et vous auriez envie?
Non mais c'est pas une question d'envie parce que un plaisir.
Alors on va continuer d'en discuter parce que
j'ai des choses à dire.
Bien sûr, tu as des choses à dire, Natacha Polonici. Il faudra parler aussi carburant.
Oui, bien
notamment
sûr.
Parce que ça, c'est le grand débat politique du moment.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Stories, c'est Natacha Polony qui est avec nous, la France corps et âme aux éditions Plomb. La France, elle a du mal à faire son plein d'essence en ce moment. Oui. Est-ce qu'il faut en demander plus à Total ou pas, Natacha Polony?
Le problème qu'on va avoir là dans les années à venir, plutôt dans les mois à venir, c'est la question de la distinction entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Sur le court terme, on va avoir une crise, on va avoir une inflation cet automne et peut-être même des problèmes d'approvisionnement. Il faut bien comprendre que le détroit d'Ormuz, c'est pas seulement le pétrole, c'est aussi le soufre, par exemple, qui est issu du raffinage du pétrole et qui sert dans tout, c'est-à-dire dans le cuivre, la fabrication du cuivre, du nickel, des microprocesseurs. Donc si le détroit d'Ormuz n'est pas ouvert très rapidement, on va vers des difficultés gigantesques. Donc le problème, c'est que ce sont les plus fragiles qui vont payer. C'est-à-dire ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller bosser. Et comme on n'a rien prévu, puisqu'on n'a pas assuré la souveraineté, c'est-à-dire l'indépendance dans les domaines absolument essentiels, eh bien on se retrouve face à un cataclysme. Donc face à ça, que faut-il faire? Surtout pas uniquement du court terme, Pourquoi ? Parce que sinon, à la prochaine crise, on se retrouve dans la même situation et surtout, on continue à s'enfoncer. Donc, il faut protéger les plus fragiles. Je donne un exemple, les aides à domicile. Leur indemnité kilométrique n'a pas été révisée depuis des années. Donc, ces gens-là qui n'ont pas choisi de travailler avec leur voiture, il faut les aider, il faut cibler. En revanche, dans le même temps, il faut absolument mettre en place à la fois un véritable plan de décarbonation. Pour ça, il faut garantir une énergie électrique, c'est-à-dire décarbonée et peu chère. Mais pour ça, il faut se battre à l'échelle européenne pour que notre nucléaire puisse être garanti. Il faut revenir sur les volontés de la Commission européenne de donner notre énergie issue de nos barrages hydroélectriques à des faux concurrents. C'est-à-dire qu'on est en train de faire sur l'hydroélectrique ce qu'on a fait sur le nucléaire et sur l'ensemble de la politique d'EDF. C'est-à-dire qu'on a créé des faux concurrents à EDF qui ne produisent rien juste parce qu'il fallait de la concurrence. Tout ça est stupide. J'ajoute un point, c'est que la fixation du prix de l'électricité à l'échelle européenne est une aberration, c'est-à-dire qu'on fait tout pour empêcher la France de bénéficier pour ses entreprises de son avantage compétitif. Par exemple, quand le prix de l'électricité est très faible en France, puisque nous avons du nucléaire, et que le prix est très élevé en Allemagne, où ils ont du charbon qui pollue d'ailleurs, qui pollue toute l'Europe, et des énergies renouvelables, eh bien en fait, la France, quand elle vend son électricité à l'Allemagne, n'empoche pas la différence. EDF n'empoche pas, ce n'est pas le producteur qui empoche la différence, ce sont les réseaux, et de telle manière qu'en fait, ça équilibre les prix. Donc vraiment, tout est fait pour qu'on ne puisse pas bénéficier de nos investissements. Bref, il faut mener une politique qui défend le pouvoir d'achat à court terme et à long terme des Français par cette électricité peu bon marché, donc avec un opérateur qui soit un opérateur piloté par l'État. Et il faut avant tout investir dans une politique de production parce que c'est ça qui nous permettra d'encaisser les futurs chocs. Donc, mettre l'ensemble de l'énergie de la puissance publique sur cette préservation de ceux qui produisent sur le sol français.
Charles,
non, je trouve ce propos très intéressant. J'aime bien cette idée selon laquelle la France est à la fois un corps et une âme, un corps de par ses territoires, sa géographie particulière, sa cuisine qui ne va pas sans son territoire, et une âme par les idées qu'elle défend depuis toujours et qu'elle est sur lesquelles elle a été à l'avant-garde au cours des siècles. J'aime bien. Aussi, il y a quelque chose d'assez finkielkrautien dans votre approche de l'éducation et dans votre espèce de désarroi face à cette jeunesse qui manifestement a le cerveau qui fonctionne mais qui sait plus lire.
Il n'y a pas de désarroi. Il y a une colère face au fait qu'on leur ment. Ça, oui.
Oui, mais vous racontez par exemple un moment où ils sont très émus en écoutant Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo.
Oui, mes élèves que j'avais eus quand j'ai enseigné à Épinay-sur-Seine. Et donc des élèves issus vraiment de toute origine et à qui j'ai fait étudier Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo parce que c'est pas évident, hein, mais quand il y a la volonté, on y arrive. Et on arrive à transmettre ça parce que je considérais que c'était leur héritage à tous.
Et ils se sont passionnés pour ça, ils ont aimé.
Oui. Bon.
Donc tout ça, je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est très intéressant sur le plan, disons, analytique, mais je pense que ça appellerait un tome 2, disons, sur lequel peut-être que vous travaillez déjà, sur, en gros, la projection. On est d'accord sur tout ça, ce constat, etc. C'est, voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait au-delà des ajustements
techniques ? Mais si vous avez lu les trois derniers chapitres, non, vous voyez que ça n'est que de la projection.
Oui, mais je trouve que vous êtes un peu, pour le coup, là, il y a un peu de technocrate en vous, étrangement, alors que vous n'avez pas fait l'ENA.
Ah, c'est la première fois qu'on me le fait.
Ben oui, même là, ici, vous parlez des barrages hydrauliques,
ben etc. Oui, il faut pas.
Il y a un auditeur sur deux qui décroche. Non, mais je dis pas que c'est pas intéressant.
Vous pensez que les auditeurs de RMC ne peuvent pas s'intéresser à ça?
Moi-même, j'ai décroché sur une partie, donc je vous dis les choses comme je les ressens. Je pense que vous avez quand même un petit côté techno.
C'est ce
qui est d'ailleurs étonnant parce que vous admirez en fait le panache français, vous parlez de la littérature qui est indissociable de notre pays, on sent que c'est sincère cette démarche de votre part. Vous aimez ça. Mais les grandes périodes de l'histoire de France, c'est des périodes de projection qui vont très au-delà des ajustements.
Alors, si je peux répondre,
c'est Louis XIV qui construit Versailles.
Non, alors Charles,
c'est Napoléon qui change absolument tout. C'est De Gaulle qui change absolument tout.
Charles, je vous réponds non.
Je pense qu'on aurait besoin.
Si je peux en placer une, voilà. Louis XIV qui construit Versailles, c'est le contraire de la projection française. Pourquoi? Louis XIV a laissé la France dans un état bien pire qu'il ne l'a trouvé. Ouais, enfin, ce que je cite dans le livre, c'est Henri IV. C'est Henri IV qui réconcilie la France. C'est Henri IV qui se projette. Et derrière, il y a Colbert, oui, mais pas Louis XIV. Colbert. C'est Colbert qui prévoit, qui fait en fait de la planification, c'est-à-dire qui plante des chaînes parce qu'il a prévu qu'il fallait avoir une marine.
Anglais,
eh bien, vous avez lu le livre, donc vous savez que j'en parle. Donc, au contraire, ce livre, c'est une façon d'utiliser l'histoire de France pour se projeter. C'est-à-dire, ce qu'a fait Colbert, c'est de la planification. C'est ça que nous devons faire à l'échelle contemporaine.
Oui, mais je trouve qu'il vous manque un peu
se tournant
un
vers
global.
L'avenir. Mais il est là, le concept global. Production, souveraineté. Oui. Le concept global, c'est de dire, et je vais vous le simplifier, si vous voulez bien. Je vais essayer de pas être trop techno, même si je suis convaincue, parce que je suis profondément démocrate, que les citoyens comprennent parfaitement toutes ces problématiques-là. J'ai une entière confiance en la capacité de jugement des citoyens de quelques milieux sociaux qu'ils soient. Donc, je termine. Qu'est-ce que c'est le cœur de ce livre, sa thèse ? C'est de dire que il faut produire pour retrouver notre indépendance, oui, c'est-à-dire notre liberté. Qu'est-ce qui fait que nous allons pouvoir survivre dans un monde qui est un monde de plus en plus brutal et violent, où nous sommes lancés dans une guerre de matières premières? Parce que c'est ça qui se passe. Ce qui est en train de faire Donald Trump dans le détroit d'Hormuz, ce que font les Chinois, c'est une guerre de matières premières. Or, dans ce cadre-là, l'Europe a arrêté de penser en termes d'indépendance. Donc si nous voulons ne pas être esclaves dans les décennies qui viennent, il faut produire sur notre sol, il faut penser les chaînes d'approvisionnement de façon à ce que nous puissions avoir tout ce qui va nous permettre de vivre sans dépendre des autres. Oui. Le premier point, c'est l'énergie. Derrière, c'est l'alimentation. Ensuite, l'industrie.
L'État n'a plus un rond, on ne peut plus planifier.
Non mais l'État n'a plus un rond parce que ça fait 20 ou 30 ans qu'on a des politiques qui se contrefichent de ces questions d'indépendance.
D'argent, on ne peut plus planifier, donc, on en est à savoir si on peut payer les salaires.
Donc, cher Emmanuel de Villiers, oui, la question de l'argent, il y en a. 6 250 milliards d'épargne qui va abonder l'économie
des Français. Mais non, ceux qui nous écoutent ne vont pas être d'accord.
Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas prendre l'argent. C'est faire en sorte que cet argent soit productif. C'est ensuite nettoyer la dépense de l'État parce qu'il y a des gouffres financiers, parce qu'il faut absolument, par exemple, réviser le millefeuille territorial, faire en sorte d'arrêter d'avoir une administration absolument pléthorique. Tout ça, ça doit être fait, mais en parallèle, si vous ne recréez pas de la richesse en produisant sur le sol français et donc en favorisant les entreprises qui produisent ici plutôt que celles qui importent ou qui s'enrichissent en ruinant l'industrie et l'agriculture française, alors vous ne vous en sortez pas.
Disais, ça n'a l'assentiment de personne que si on ne repasse pas aux 39 heures sans augmenter les salaires, on ne peut pas redécoller. J'ai dirigé 6 entreprises depuis 40 ans dans plein de secteurs différents.
Je rencontre tous les jours la question, si vous faites ça sans penser le reste, c'est-à-dire l'ensemble de l'organisation permet de flécher l'argent vers la production française, ça ne suffira pas. Vous ne pouvez pas vous mettre en concurrence avec des pays qui ont un SMIC qui est 2 fois, 4 fois inférieur au nôtre si vous ne limitez pas, en quelque sorte, cette concurrence. Regardez, par exemple, je prends le cas de Shein. Shein est une entreprise qui ne rapporte aucun impôt, aucune taxe, aucune cotisation sur le sol français. Donc, le fait d'avoir laissé s'installer ce genre de plateforme, d'avoir fait en sorte de leur faciliter la vie en ouvrant les ports européens à des petits colis et en aidant même, c'est-à-dire que c'est fabuleux, la Poste considère que la Chine est encore un pays en voie de développement et donc jusqu'à récemment, nous avions des subventions pour les petits colis chinois. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, baisser les salaires en France, tout ce que vous voulez, ça ne changera rien à ça si vous ne réglez pas le problème de fond qui est celui d'une concurrence déloyale. Et accessoirement, il faut dire aux Français, quand vous achetez chez Chine, eh bien, vous votez pour un système qui va vous demander de travailler jusqu'à 70 ans parce que, en fait, vous faites travailler des entreprises qui ne payent pas les cotisations, qui n'abondent pas notre système social. Mais c'est pas tout, c'est pas les consommateurs tout seuls qui vont régler le problème. C'est un problème politique. C'est à la puissance publique de faire en sorte que l'argent des Français abonde le modèle social français.
Merci, Natacha Polony. La France, corps et âme, aux éditions.
Vous reviendrez pour vos déclarations de candidature dans les grandes gueules.
Merci.
Meilleur endroit pour se déclarer candidat.
Merci d'être passé par les GG.